Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Patrice Perrin qui vous souhaite une bonne année, une bonne santé et de bons livres à lire, parce que lire des bons livres, c'est ce qui permet de rester droit, alors que l'horizon est quand même assez sombre. Voilà. Pour cette première émission de cette année 2022, le mot qui me vient à l'esprit, c'est celui de chemin. Et vous allez voir que j'ai emprunté plusieurs chemins. Le premier chemin est réalisé par Gwenaël Abolivier. Le titre de son récit, « Marche en plein ciel ». Un très beau thème, « Marche en plein ciel ». Aux éditions qui vient de paraître, aux éditions « Le mot et le reste ». Dans lequel l'écrivain, cette écrivaine, traverse à pied les Cévennes avec Stevenson, qui, lui, l'avait fait en compagnie d'un âne le 17 septembre 1878. Cela remonte à un siècle à peu près. Donc, et c'est un texte merveilleux que je vais vous présenter. Le deuxième chemin, plus périlleux, est tracé par Henri Gougaud, qui, au XIIIe siècle, dans un roman « La confrérie des innocents », édité par Albin Michel, a donné vie à Alexis, jeune moine, et ses compagnons dans la région de Toulouse, en proie au débordement sanglant de l'Inquisition. Il se voit confier un manuscrit convoité par le grand évêque inquisiteur et qui doit le transporter coûte que coûte jusqu'à Pamiers, d'où il vient. Un mystère sera élaboré dans ce livre, dans ce roman de Henri Gougaud, La confrérie des innocents. Le troisième chemin, en fait, c'est une escalade entre la Chine et les USA. Magistral roman de Ken Follett avec le titre « Pour rien au monde » édité par Robert Laffont qui imagine une crise internationale tellement forte et dangereuse qu'elle peut entraîner la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est terrible et bien mené. Le quatrième chemin que j'ai emprunté, c'est une étude fondamentale, révolutionnaire même. Dieu, la science, l'épreuve, édité aux éditions Guy Trédaniel. 3 ans de travail avec une vingtaine de scientifiques et de spécialistes de haut niveau ont été nécessaires par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, avec des faits, rien que des faits exposés, un ouvrage tout à fait remarquable qui révèle les preuves modernes de l'existence de Dieu. Les connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle, au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Voilà. Et peut-être, si j'ai encore un peu de temps, un cinquième chemin ou un parcours d'une vie sur la vie de André-Marie Ampère, qui est né à Lyon le 20 janvier 1775 dans la paroisse Saint-Nizier, qui a passé son enfance et les années de jeunesse au cœur de la nature à Paul-Émieux, dans la maison de ses parents. Tous ces apprentissages se sont faits à la maison et on comprend l'histoire. Et pour comprendre l'histoire des oiseaux, comprendre l'histoire des oiseaux, a été pour lui l'occasion d'apprendre à lire, chose qui devint essentielle pour en faire un savant d'une curiosité insatiable pour l'ensemble des connaissances humaines. Aucune ne lui resta étrangère. Et bien que malade et très diminué mentalement, il fit un voyage le 9 juin 1836 pour aller inspecter le Collège royal de Marseille, où il mourut. Récit écrit par Thierry Soudé-Jo, en père qui lui a enseigné à Bourque, parce qu'il a été enseignant pour gagner sa vie, voilà, parce qu'il a été amoureux, donc il a pensé épouser une jeune fille, et donc il devait faire quelque chose de sa vie, donc enseigner, et il a enseigné à Bourque de 1801 à 1803, dans l'ancien collège des Jésuites, devenu sous Napoléon le lycée Lalande. Voilà, donc un beau programme. Et donc je commence par le premier chemin, par celui qui commence par le merveilleux récit, une marche entreprise par Gwenaël Abolivier, Marche en plein ciel, édité par Le Mot et le Reste. Je vous avais présenté son récit précédent, Tu m'avais dit où est-ce-en ? Paru chez le même éditeur en 2018, nous savions alors qu'elle aimait la marche et partir à la découverte de paysages et de gens habitant sur une île. Ici, dans ce nouveau récit, Marche en plein ciel, en arpentant le chemin emprunté par Robert Louis Stevenson, il y a plus d'un siècle, Gwenaël Abolivier harmonise deux passions, l'écriture et la marche. À chaque pas qu'il éloigne de l'immobilité du quotidien, elle s'ouvre davantage à la littérature tout en faisant corps avec le paysage Cévenol et les multiples formes du vivant qui l'entoure. Partie seule, elle fit la connaissance d'un autre grand marcheur qui fit l'acquisition d'une ânesse qu'il a baptisée Luce, comme la lumière, les éclats de lumière, parce que cette ânesse avait provoqué, comme ça, par sa présence, des éclats de lumière. Par moments, le vieux Marvejol, Luce, donc son ânesse, et Gwenaël marchent ensemble et échangent quelques mots. Sinon, ils vont tous les deux en musardant, alors que Gwenaël marche volontairement. En marche, elles vont musardant, comme deux habitants de En Marche, comme deux habitants de la terre. On est touché par la si belle relation entre lui et l'animal. Rien à voir avec ce qui se passait entre Robert Louis Stevenson et son ânesse Modestine. Pendant tout son périple, l'explorateur va martyriser la pauvre bête, lui donnant des coups de badine, encouragé par les habitants qu'il croise, car à cette époque-là, les habitants pensaient qu'il fallait battre et piquer les ânesses qui étaient un peu réticentes. Elle donne d'autres détails de la vie de Stevenson à Marvejol, que vous découvrirez en lisant ce beau récit « Marche en plein ciel » de Gwenaël Abolivier. Je vous le laisse découvrir. car c'est un petit livre, mais essentiel. Alors voici ce qu'elle écrit dans ce petit livre essentiel. « Plus que jamais, dit-elle, lors de cette marche dans les Cévennes, je suis traversée par le flux du voyage. C'est le lent travail de la marche, grand ami de la route. Je note les mots et les phrases qui arrivent en offrande comme autant de bouquets coloriés. J'effeuille la réalité et découvre la libération que cela provoque. Dans ce vibrato, les mots s'entrechoquent et se déposent en pierre de rosée sur la page. Dans la fraîcheur du matin, ils sont à eux seuls la promesse d'une renaissance. Et si nous n'étions que des funambules avançant sur la crête de la vie à la recherche d'un équilibre intérieur? C'est une question qu'elle se pose et qu'elle nous pose. À part la part du ciel, comme la part des anges, je m'en enivre. Et quand je n'en peux plus de marcher, car c'est un effort, je m'allonge et m'endors, bercé par la pulsation de l'univers. Tiens, elle parle de l'univers, je vous en parlerai plus tard, de l'univers. Sur ce trajet solitaire, les grands espaces se métamorphosent en pensées sauvages. Ainsi, je vous livre ces quelques réflexions méditées pas à pas par Gwenaëlle à Bolivier. Au fil de ce voyage, avec au détour des sentiers une ou des rencontres, le temps d'une parenthèse tout en délicatesse, elle tutoie le ciel. La solitude lui offre l'espace nécessaire pour penser la course du monde et l'horizon incertain. La discipline et la force du mouvement régulier composent ce récit comme une ode à la liberté. Voilà. Donc je passe au deuxième livre, au deuxième chemin. Un roman imaginé par Henri Gougaud, grand conteur. La confrérie des innocents, édité par Albin Michel. Cette confrérie se compose de Alexis, jeune moine, en apprentissage à Pamiers, de Verniol, voleur au grand cœur, évadé de la prison de Pamiers, qui devient son compagnon, de Jeanne, une belle jeune femme, fille de Baruel et nièce du redoutable évêque inquisiteur, de Anna, sa nourrice, qui se donne le bon du bon temps avec le valet de l'évêque, de Adam de Miraval, jeune astronome amoureux de Jeanne, et de son valet Taleb, au rôle ambigu, il ira même jusqu'à trahir. Puis il y a le basané Soudan qui veille au grain. Alexis doit, à la demande de Vitalis, son maître, se rendre à Toulouse pour rencontrer Baruel, qui doit lui remettre un manuscrit top secret. Convoité par beaucoup trop de monde, un brûlot, en cette région en proie au débordement sanglant de l'Inquisition, nous sommes au XIIIe siècle. Alors que Alexis ignore tout de ce texte, lui et sa confrérie sera pourchassé sans relâche par le grand évêque Falgar et ses sbires. il trouve refuge tout d'abord au Chapeau Rouge. Vaste territoire occupé par beaucoup de gens, chiffonniers ou autres, puis plus tard dans la profonde forêt, où à chaque fois se trouve un haut personnage plein de sagesse qui va leur enseigner de grandes choses. Ce qui les remet aussi en route, transportant, semble-t-il, toujours et encore ce livre secret. Mais quel est le secret de ce livre, manuscrit, traduit du grec? Pourquoi est-il si recherché? C'est ce que vous découvrirez en lisant ce roman, La confrérie des innocents, de Henri Cougaud. Or, la loi, putain, conteur, charbonnier au rite païen, guérisseuse et simple gens, dont le bon sens maintient, comme toujours, le monde en équilibre, autant de personnages truculents qui composent la toile de fond de ces aventures picaresques, où Henri Cougaud, de son écriture somptueuse, redonne vie à Alexis, un personnage au final plein de sagesse. Voilà pour le deuxième roman, le deuxième chemin, le deuxième livre. Le troisième, voilà, ça c'est difficile. Le troisième chemin est un roman magistral de Ken Follett. Le titre, Pour rien au monde, un grand roman de 778 pages, édité par Robert Laffont, et qui nous plonge étroitement dans des lieux très différents. Il part de l'idée que la Première Guerre mondiale était un accident, que personne ne la voulait vraiment, sauf les petits chefs qui se sont fait la guerre. De nos jours, donc on est de nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets, français et américains, ils sont installés à N'Djamena, et ils pistent des terroristes trafiquants de drogue. Ils risquent leur vie à chaque instant. Ces deux agents, ils les nomment Tamara et Tab. Ce qui est important parce que on se sent comme ça passionné par ces personnages, peu à peu passionné par ces personnages, Tamara et Tab. Il y a aussi une jeune veuve, Kia, qui a un jeune fils, Nagi. Elle est du lac Tchad. Elle tente de rejoindre l'Europe, Nice en particulier, mais pour cela, elle doit se battre contre les passeurs qui veulent s'enrichir à leurs dépens. Et elle est aidée par un homme silencieux et déterminé, Abdoul, qui cache sa véritable identité. Ce sera vraiment un être formidable. Un chef général africain vole un drone américain afin de bombarder un endroit en Afrique où travaillent des ouvriers chinois, afin de provoquer des remous entre la Chine et les USA. Et bien sûr, les Chinois vont réagir à ce désastre, à cette mort de ces ouvriers chinois, qu'ils pensent être le cas des Américains, alors que c'était un chef général africain qui voulait semer la pagaille. En Chine, justement, un membre du gouvernement, qui s'appelle Cai, lutte contre de vieux faucons communistes qui poussent le pays vers un point de non-retour. Et c'est vrai qu'il y a un président chinois qui, dans un premier temps, écoute Cai, qui essaye de ménager les choses entre les Américains et les Chinois. Mais c'est vrai que les vieux faucons communistes sont bien là et que malgré toute la technique, tout le progrès que connaît la Chine, le parti communiste reste vraiment très important. Ils négligent presque même leurs enfants, leurs propres enfants. C'est le parti qui doit toujours l'emporter. Aux États-Unis, la première femme élue présidente, c'est Pauline Green. Pauline Green, qui a une fille adolescente Pippa, et elle doit manœuvrer entre les attaques au Sahel, voilà, les provocations du Sahel, le commerce illégal d'armes, voire de drogue, et les bassesses d'un rival politique. Voilà. C'est bien aussi un visage de l'Amérique d'aujourd'hui. Et le péril vient de la Corée du Nord, dans laquelle des militaires armés se rebellent contre le chef d'État, que vous connaissez, ce qui met en alerte la Chine, son principal partenaire, et aussi le Japon, et aussi parce qu'il y aura des représailles. Ainsi, alors que des actions violentes, des représailles, comme je l'ai dit, se succèdent un peu partout dans le monde, formant un chemin, une escalade dangereuse, les deux grandes puissances se débattent dans des alliances complexes. Une fois les pièces du sinistre puzzle en place, pourront-elles empêcher l'inévitable, une troisième guerre mondiale et nucléaire, alors que la crise internationale est à son comble? Grande question posée dans ce grand roman de Ken Follett. C'est tout à fait convaincant d'intelligence et de possibilité. Et grâce à ces principaux personnages devenus familiers, que l'on suit dans l'évolution de leurs histoires, tissées comme un grand jeu de patience, que ce drame, c'est voilà, grâce à ses principaux personnages, que ce drame devient passionnant, car on est attaché par Tamara et Tab, qui après bien des épreuves parviennent à s'aimer, de même que Abdul et Kia, qui avec Nagi sont bien arrivés à Nice, après avoir été emprisonnés, et qui songent à se marier, donc tous les espoirs sont permis. Et donc on peut écouter de la musique, un peu de musique, de Jean-Sébastien Bach, l'aria de la Passion selon Saint Jean.
Nicht zu entbehren,
Merci. Voilà une bien belle musique pour me permettre de passer à un quatrième chemin ou livre qui est une étude sérieuse et inédite réalisée par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, Dieu, la science, l'épreuve, aux éditions Guy Trédaniel. 3 ans de travail ont été nécessaires avec une vingtaine de scientifiques et de spécialistes de haut niveau pour réaliser, pour écrire cet ouvrage de 566 pages qui montre une révélation. L'épreuve moderne de l'existence de Dieu. Pendant près de 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'univers, sans avoir besoin de recourir un Dieu créateur. Et c'est ainsi que, au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. De façon aussi imprévue qu'étonnante, le balancier de la science est reparti dans l'autre sens. Avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité, Einstein, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'univers, de sa mort thermique, et oui, elle est annoncée, sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fin de l'univers, ou de la complexité du vivant, se sont succédés. Ces découvertes se sont succédées et apportent ces connaissances nouvelles qui elles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle. Au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, mais qui a fait des guerres, la guerre de l'Union soviétique en particulier, ou d'autres, qui ont voulu défendre ce côté matérialisme de l'univers, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Dans une langue accessible à tous, les auteurs de ce livre, Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, offrent un panorama rigoureux des nouvelles preuves de l'existence de Dieu. À l'orée du XXe siècle, croire en un Dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire? Car ce livre révolutionnaire, en fait, est une invitation à la réflexion et débat. Une belle préface de Robert William Wilson, qui fut prix Nobel de physique en 1978 pour la découverte en 1964 du rayonnement de fond cosmologique, véritable écho du Big Bang. Donc, lui aussi fait avancer la découverte, la science. Et dans une préface, il dit « Ce livre est une très bonne présentation du développement de la théorie du Big Bang. » On en avait parlé sous Nebuchadnezzar à un moment donné, mais après, on l'a laissé tomber un petit peu, ce Big Bang, cette théorie du Big Bang. Et de son impact sur nos croyances et notre représentation du monde. Comment tout cela a-t-il commencé? Parce qu'il y a eu un commencement et il y aura bien une fin. Bon, ça se passe sur des milliards d'années, hein. Donc il y aura bien une fin de cet univers. Je n'ai pas d'explication, dit-il, ce Robert William Wilson, mais peut-être que certains lecteurs auront la chance de trouver un début de réponse dans cet ouvrage magistral. Voilà, je voulais vous parler donc de ce gros, gros livre, La science, nouvelle alliée de Dieu. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, parce que c'est vrai que tout semble recommencer avec ce livre, écrit par Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi aux éditions Guy Trédaniel. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut parcourir. Alors il y a deux parties trois parties même dans ce livre. Le premier, c'est sur l'univers, naissance et peut-être fin de l'univers. La deuxième partie, qui est vraiment très ancienne, c'est sur la biologie de la vie, car on se pose beaucoup de questions sur cette biologie de la vie. Au calcul mathématique extraordinaire, d'une finesse extraordinaire, qui prouve que ce n'est pas dû au hasard, que la vie n'est pas due au hasard. Et puis, toute une partie, la dernière, consacrée au peuple d'Israël, parce que ce peuple d'Israël croyait. Il a été critiqué, mais alors que des empires tout autour se sont écroulés, lui continuait peu à peu à marcher, et il croyait en l'existence de Dieu. Et ce Dieu, par la Bible, leur parlait de la Genèse, de tout ça. Donc c'est très intéressant de lire aussi ce livre, car il permet de mieux comprendre ce qui est dit justement dans la Genèse. Voilà. Donc je vous laisse le soin de rechercher ce gros livre, Dieu, la science, l'épreuve, pour vous poser des questions essentielles sur justement l'univers, la vie, et puis ce peuple original, différent de beaucoup d'autres, qui avec des trahisons, à afficher sa croyance en Dieu. Voilà. Il me reste encore un petit peu, j'avais dit que je vous parlerai d'un cinquième livre, parce que c'est très riche ce que je vous ai présenté, dont j'avais dit que je vous parlerai d'un cinquième chemin, celui... un parcours sur la vie de André-Marie Ampère, né à Lyon le 20 janvier 1775 dans la paroisse Saint-Nizier, qui a passé son enfance et les années de jeunesse au cœur de la nature, à Polémieux, dans la maison de ses parents. Et tous ses apprentissages se sont faits à la maison avec son père et la grande bibliothèque que ce père possédait. Et pour comprendre l'histoire des oiseaux, cela a été pour lui l'occasion d'apprendre à lire, chose qui devint essentielle pour en faire un savant d'une curiosité insatiable. Pour l'ensemble des connaissances humaines, il y a bien sûr Jean-Jacques Rousseau dans ses lectures. Aucune ne lui resta étrangère. Bien que malade et très diminué mentalement, il fit un voyage le 9 juin 1836 pour aller inspecter à Marseille, il était devenu inspecteur au Collège Royal de Marseille. Et je vais vous lire justement, alors le titre exact de ce modeste livre, mais vraiment très bien écrit, par Thierry Soudéio, ou Soudéjo, un J-A-U-D, Thierry Soudéjo, édité par Jacques André, éditeur à Lyon, une collection qui s'intitule « Je suis », et puis ici c'est « Je suis André-Marie Ampère », avec des très belles photos jointes, qui retracent donc le parcours de André-Marie Ampère, qui a été, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui a enseigné à Bourg de 1801 à 1803. Cette collection vise à mieux faire connaître des personnalités remarquables et à maintenir leur mémoire auprès des jeunes générations. Le nom de ces personnes d'exception a été donné à au moins un établissement scolaire en France. Il y en a pour Ampère, il y en a plusieurs, il y en a au moins trois ou quatre, cinq même, voilà. Et voilà. Donc une collection présente. Et ce volume, Je suis André-Marie Ampère, est le 55e de la collection Je suis, voilà. Une collection dirigée par Jean-Paul Chiche. Alors voilà, je vous lis le début parce que c'est tout à fait significatif. Je suis donc, l'auteur permet, Thierry Soudéjot, permet de se mettre dans la peau et l'âme de André-Marie Ampère. Je suis. Collège Royal de Marseille, le 9 juin 1836. Alité dans la chambre du Collège Royal de Marseille, que son proviseur a mise à ma disposition, je souffre atrocement de la poitrine, malgré les soins qui m'ont été prodigués dès mon arrivée dans l'établissement. La légère accalmie procurée par ces derniers s'est malheureusement estompée et mes forces m'abandonnent. Je n'aurais pas dû accepter cette nouvelle mission d'inspection générale des lycées du sud de la France que le ministre de l'Instruction publique m'a confiée le 26 avril dernier. Tant ma fatigue était grande bien avant que je ne m'engage dans ce long et pénible voyage en diligence sur les routes de France. Que n'ai-je écouté mon ami et confident Bredin, qui m'a rejoint à Saint-Étienne, bouleversé par la dégradation de mon aspect physique et de mon mauvais état de santé. Il m'a exhorté à ne pas poursuivre mon chemin, voilà, il parle bien d'un chemin, et à me faire soigner sur place ou à Lyon. Je suis, hélas, resté sourd à ses conseils, tant il ne devait être question entre nous deux que de vérités, que des vérités éternelles, des choses et des hommes qui ont été funestes ou utiles à l'humanité. Je vois le jour du jugement dernier approcher, donc il sent que sa mort approche, qui m'invite à porter un regard sur ma vie, une vie faite de moments heureux, mais aussi de drames, tels que l'exécution de mon père sous la terreur et le décès prématuré de ma tendre épouse. Une vie faite de préoccupations familiales et financières, une vie de passion pour les sciences, une vie de travail, d'un travail souvent harassant avec mes charges d'enseignement. C'est lui qui le dit, hein, à ce moment-là déjà. Mes recherches, mes inspections et les multiples obligations s'y rapportant. Une vie dans laquelle la réflexion philosophique a pris une large part. Voilà. Donc il parle après de ses années à Polémieux, ses années d'enfance et d'adolescence qui font très heureuse. Et ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là et vous laisser découvrir. C'est une vie intense faite de passion et de drame que celle de André-Marie Ampère, à la fois illustre et méconnu. Il fut un savant d'une insatiable curiosité. tour à tour poète, mathématicien, chimiste, physicien et philosophe, il investit toutes les sciences avec une puissance d'imagination et d'invention hors du commun. Il posa les bases de l'électrodynamique, à ce qui lui assura la gloire. Né sous l'Ancien Régime, il vécut la Révolution française, l'avènement du Premier Empire et le retour des Bourbons, marqués par des drames familiaux que je vous ai cités, des moments d'exaltation, des périodes d'abattement et des tourments de l'âme, il trouve refuge dans la foi chrétienne. Donc c'est bien une suite à la suite du gros livre « Dieu, la science et l'épreuve ». Rien ne vint jamais altérer sa bonté naturelle et sa croyance dans les progrès de l'humanité. On peut donc aimer Dieu et aimer les progrès de l'humanité. Voilà. Eh bien, à la fois prochaine, je vous souhaite de bonnes lectures, donc c'est bien si vous suivez un peu mes exemples de chemin, vous verrez que ce sont de très très bonnes lectures. En particulier, j'ai un faible quand même pour Marche en plein ciel de Gwenaëlle Abolivier, chez Le Mot et le Reste, de Ken Follett pour Rien au monde, chez Robert Laffont, de Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi, chez Guy Trédaniel, et puis le petit dernier, qui ne coûte que 10 euros, Je suis André-Marie Ampère, aux éditions Jacques André, éditeur à Lyon. Au revoir et à la fois prochaine. Bonne année encore.